Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Kelly, psychologue accomplie, curieuse de la vie et du fonctionnement psychique. Je m'intéresse à l'invisible, à ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne dit pas et ce qu'on ne perçoit pas toujours. J'expérimente les états de conscience, la connexion à nos parts inconscientes, en gardant comme fil conducteur l'alignement, le bien-être, l'intuition et bien sûr nos émotions. Je rêve de partager avec toi mes découvertes, mes expériences patients, les expériences humaines dans leur globalité. Tout simplement rendre visible ce qui ne l'est pas et le vivre avec toi. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager à un ami, à un membre de ta famille, à ton boss, à ton copain, à ta copine, à toute personne qui pourrait adorer le sujet et une personne que ça pourrait peut-être aider. Merci pour ton écoute et à bientôt. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de rencontrer et d'interviewer Madame Brigitte Favre, psychologue, psychothérapeute, mais également médium, qui exerce sur Genève, en Suisse. Il y a quelques mois, j'étais à la recherche de psychologues, qui avaient comme moi une ouverture à l'invisible, qui osaient en parler, s'exposer sans trop de tabous. Moi, la jeune femme parisienne, qui quelques mois auparavant aurait dû s'installer en Suisse, à Genève. Même si ce projet ne s'est finalement pas réalisé, je n'ai pas pu faire autrement que de vous écrire un mail pour vous proposer un échange. Suite à cette réponse, quelques jours plus tard, j'ai eu la chance de découvrir votre livre « Soigner les vivants et parler aux morts ». Je l'ai parcouru en une seule soirée, il m'était impossible de dormir avant de l'avoir terminé. C'était passionnant et libérateur pour moi de découvrir votre parcours, mais aussi de ressentir ce sentiment d'appartenance sur cette connexion avec l'invisible. Lorsque j'ai décidé de lancer le podcast, votre nom est naturellement venu à mon esprit. Lorsque j'imaginais quels pourraient être les professionnels de santé qui viendraient partager ce micro avec moi. Déjà pour commencer, j'aimerais vous demander, Brigitte Favre, de vous présenter. Pourriez-vous nous dire quelques mots sur vous ?
Merci pour cette introduction, Kelly. Vous avez mentionné ma qualité de psychologue, psychothérapeute et médium. Et en fait, il faut savoir qu'avant tout ça, j'ai eu une autre vie.
D'accord.
J'ai travaillé pendant plus de 12 ans dans l'administratif. J'ai travaillé dans l'immobilier, l'import-export, la finance. Et la psychothérapie, la psychologie, c'est devenu après.
D'accord.
J'ai décidé, début trentaine, de reprendre des études en psychologie. Et ça m'a amené, c'est des longues études, parce qu'on fait psychologie. Puis finalement, je me suis formée en psychothérapie. C'est des longues études qui durent 11 ans.
D'accord.
Pour devenir psychothérapeute. Et j'ai adoré ces études. J'ai adoré apprendre sur l'humain. J'avais l'impression que c'était un cadeau chaque jour, en fait. C'était vraiment quelque chose qui me remplissait.
Oui, je comprends.
Et puis, quand j'ai pu devenir psychothérapeute, j'ai d'abord travaillé en institution. J'ai travaillé en alcoolologie. Ça m'a passionné, les addictions. Et aussi en soins palliatifs. Donc déjà là, le côté décès, accompagnement, était déjà avec moi. Et maintenant, je reçois dans mon cabinet des gens qui souffrent de troubles psychologiques variés, je dirais, que ça peut être l'anxiété, de la dépression, mais beaucoup de traumas et des problèmes de deuil.
À quel moment, finalement, la question de la médiumnité vient à vous ?
Quand j'ai décidé de m'installer comme médium professionnel, ça a été 10 ans après avoir ouvert mon cabinet de psychothérapie. C'est jamais un hasard, hein. En fait, à cette époque-là, j'ai perdu mes parents à un an d'intervalle. Et pour la première fois de ma vie, j'ai décidé d'aller voir un médium sur conseil d'une amie. La séance a été extrêmement thérapeutique.
D'accord.
Cette personne a pu me donner des informations sur mes parents. Elle les connaissait pas, évidemment, elle me connaissait pas non plus. Et cette personne m'a décrit mes parents, a pu me donner certains éclairages, leur vie aussi, sur notre relation, qui a beaucoup aidé. Et quand je suis sortie de cette séance, j'ai appelé l'ami, qui était aussi psychothérapeute, et je lui ai dit, écoute, ça, je veux absolument comprendre comment ça fonctionne au niveau professionnel, parce que là, pour moi, ça a été quelque chose de très fort.
Eh oui.
Et c'est par la suite que j'ai décidé de me former. Assez rapidement, j'ai ouvert une consultation de médium professionnel.
D'accord.
Donc, c'est le côté thérapeutique de la médiumnité qui m'a intéressée. Je dirais, avant de rentrer dans ma vie professionnelle, la médiumnité a attiré mon œil professionnel.
Et oui, et du coup, j'imagine que t'allais faire cette consultation chez un médium pour la première fois, c'est pas évident. On le découvre d'ailleurs dans votre livre, vous expliquez que vous faites en sorte de pas donner trop d'informations dans cette consultation, que votre œil critique de psychologue et votre mental aussi se demande si tout ça finalement est vrai et...
Ben, c'est vrai que c'est normal de garder son sens critique, hein. Je dirais qu'il faut le garder, moi j'encourage les gens à le garder. Mais le travail d'un médium, c'est justement de donner des informations sur un défunt qu'il connaît absolument pas, mais des informations qui sont suffisamment précises pour que la personne se dise que c'est pas juste le fruit du hasard. Et une fois que cette personne est reconnue par la personne qui consulte, là, la communication s'établit. La communication ne veut rien dire si vous ne pouvez pas reconnaître la personne qui communique. Les messages de mes parents, c'est pas quelque chose que je m'attendais à recevoir comme ça. Ou même la teneur des messages, je m'attendais pas forcément. Vous voyez, moi j'ai été voir une médium en me disant, évidemment on se fait plein d'idées.
Oui.
Et souvent on est surpris. Et c'est ça aussi qui est fort.
Eh oui.
Des fois, évidemment, on reconnaît bien son défunt. Il y a des choses très typiques de ce défunt qui sont dites, qui prouvent encore plus profondément que c'est bien le défunt. Mais il y a aussi des fois des choses un peu surprenantes. Et c'est ça aussi qui, pour moi, m'a fait dire, c'est pas possible que ce soit juste le fruit du hasard. Aussi, vous êtes psychothérapeute, je le suis, vous savez bien que dans la formation de psychologie, on fait des statistiques.
Eh oui.
Donc,
beaucoup de statistiques.
Tout à fait. Donc, on connaît les probabilités. Donc, on a un côté scientifique.
Et donc, du coup, vous décidez d'aller vous former?
Oui.
Suite à cette séance. Est-ce que vous trouvez facilement où vous former? Parce que j'imagine que c'est pas simple.
Alors, ça a été assez facile parce que j'ai commencé par la médium qui m'a donné les informations avec laquelle j'ai fait la séance. Et assez naturellement, je me suis formée au début avec une médium en Suisse. Et ensuite, très vite, j'ai été me former en Angleterre.
D'accord.
Et l'Angleterre m'a beaucoup, beaucoup intéressée parce qu'ils ont vraiment une tradition de médiumnité. En Angleterre, depuis 1901... le spiritualisme, c'est une des religions d'Angleterre.
D'accord.
Et le spiritualisme, c'est eux qui forment beaucoup de médiums. Et quand vous allez dans une église spiritualiste en Angleterre, non seulement vous avez une oration, comme ça se passe dans n'importe quelle église, mais vous pouvez voir des médiums qui travaillent en plateforme, donc ils font de la médiumnité publique.
D'accord.
Et les spiritualistes, en fait, pour eux, les médiums, c'est la branche scientifique du spiritualisme, parce que les médiums, de par leurs informations, de par le fait qu'ils peuvent amener des informations précises, qui font que une personne dans l'assemblée va reconnaître ce défunt-là, pour les spiritualistes, c'est ça le côté scientifique, c'est ça les preuves qu'il y a une continuité de l'existence après la mort.
D'accord.
Parce que j'avais la question d'ailleurs aussi, c'est ça, hein. Souvent, quand je voyais des amis ou des gens, au début, évidemment, j'ai pas dit que la médiumnité m'habitait, je l'ai bien gardée pour moi.
Oui.
Et puis à un moment, j'ai décidé de partager ça quand même. Et quand je partageais que j'étais psychothérapeute et psychologue, ce que savaient déjà les gens souvent, et médium, les gens étaient très étonnés. Ça a été aussi pour ça que j'ai écrit un livre, dans le but de partager, dans le but de mieux expliquer que c'était la médiumnité, aussi comment moi j'ai évolué pour arriver à ça, pour arriver d'endosser un titre et une fonction de médium professionnel. J'avais plein de stéréotypes, hein.
Bien sûr.
J'avais des stéréotypes de films. Je sais pas si vous avez vu Ghost.
Oui.
Avec Whoopi Goldberg, qui prend cette voix caverneuse, qui change complètement d'apparence, qui fait presque peur. Et puis là, voilà, elle parle avec la voix d'un défunt. Et puis moi, je me suis dit, un médium, ça va être comme ça.
Mais oui, c'est ça, exactement.
Tout à fait.
On a plein d'idées préconçues, hein.
Une fois, quand j'étais en démonstration publique, j'ai eu un défunt qui est venu et qui m'a donné l'information qu'il avait fait de la prison.
D'accord.
Donc ça, c'est une information très spécifique. Je voyais l'uniforme, je le voyais derrière des barreaux. Et il me disait qu'il était extrêmement fâché d'avoir été en prison. Il m'expliquait pourquoi il avait été en prison. Donc j'avais déjà ces informations-là.
D'accord.
Et ensuite, je sais qu'il voulait parler à quelqu'un qu'il avait visité. Et quelqu'un qui n'était pas de sa famille, mais qui a été venu le voir par gentillesse.
D'accord.
Et finalement, quand en fait on a une personne là a reconnu avec ces informations là qui sont quand même assez spécifiques, je savais aussi qu'il avait une sœur et que cette sœur ben elle était aussi nulle voir, mais que voilà cet homme il ressentait pas tellement de culpabilité par rapport à ce qu'il avait fait, par rapport au larcin qu'il avait commis, mais je sais que sa sœur il ressentait quand même beaucoup de honte par rapport à ce qu'il avait fait.
D'accord.
De par le regard qu'elle lançait sur lui. Et ces informations-là, justement, étaient tellement spécifiques qu'une personne a pu dire « Oui, je reconnais bien ce défunt. » Et ensuite, j'ai pu lui donner les informations que voulait lui donner le défunt. Notamment, il voulait vraiment la remercier pour le fait qu'elle a été le voir. Et cette personne-là, elle a été le voir dans une fonction d'assistante sociale.
D'accord.
Et c'est pour ça qu'il venait la remercier. Parce elle était allée le voir, mais aussi elle avait écouté, elle avait essayé de comprendre.
Parce que personne ne faisait le voir en prison.
Exactement. Ah oui. C'était pas quelqu'un de très sympathique de son vivant. Mmh. Effectivement, peu de gens venaient le voir, justement parce qu'il avait pas vraiment de regrets aussi sur ce qu'il avait fait. Et puis, il trouvait très injuste d'être en prison.
Oui. Si je me trompe pas, c'est un exemple que vous donnez dans votre livre, et vous dites aussi que du coup, cette personne vous dit après coup que c'était un sociopathe.
Oui.
Et qu'elle l'avait visité parce qu'effectivement, personne ne voulait lui rendre visite. Donc, ça veut dire que ce jour-là, cette jeune femme est dans l'assemblée, dans votre démonstration publique. Vous avez ce défunt qui vient vous donner tous ces éléments, et quand vous parlez de lui, elle se reconnaît, et en fait, il est venu vous donner des informations pour la remercier.
Exactement, oui.
Et vous dites même, et je trouvais ça super dans votre livre, que vous vous questionnez toutes les deux un petit peu avec cette jeune femme sur le fait qu'il vous ait pu vous choisir, vous, psychologue, psychothérapeute et médium, pour venir passer ce message ce jour-là.
Oui, c'est vrai. Le vivre un peu de l'intérieur, de comprendre, en tout cas à travers lui, ce que ça pouvait vouloir dire. Pour moi, en tant que psychologue, ça a aussi été un très important.
Et
j'ai ressenti beaucoup de gratitude, en fait, que cet homme ose se montrer comme ça. Et ça a aussi aidé ma compréhension de médium. Parce que des fois, les gens, quand je parle de médiumnité, ils me disent « Mais ouais, mais enfin, tu risques pas quelque chose. » Des fois, les gens avec qui tu communiques, ils sont peut-être pas toujours aussi sympas. Et c'est vrai que cet homme-là, il me montrait que de son vivant, il a pas été sympa. Il arrivait même avec une colère, en montrant qu'il avait été vraiment en colère d'être mis en prison. Mais ça m'a permis de pas confondre l'émotion qu'il faisait passer de son vivant pour être reconnu, et finalement l'émotion qu'il voulait donner de l'au-delà, qui était de la gratitude pour la personne qui est venue le voir. Pour moi, c'est pas que les gens risquent quelque chose, on voyait, en ayant cette sensibilité-là, et que du coup, ce défunt-là peut leur faire du mal, ou des fois c'est évidemment des choses qu'on peut avoir peur.
Oui.
Mais pour moi, c'est des informations. Et en tant que médium professionnel, j'ai vraiment compris ça.
Oui.
Et ce monsieur m'a vraiment aidé à comprendre ça, donc je le remercie, j'ai beaucoup de gratitude.
Et oui, et du coup cette jeune femme a pu recevoir la gratitude qu'il avait envie de lui transmettre grâce à vous. Si on recentre sur la partie vraiment privée de votre cadre thérapeutique avec vos patients, comment vous avez, après votre formation en Angleterre et les autres formations que vous avez pu faire, comment vous avez décidé d'intégrer, et aujourd'hui comment finalement vous intégrez à la fois la médiumnité dans peut-être certaines séances avec vos patients, et quels sont les autres accompagnements que vous proposez qui là sont liés pleinement à la médiumnité? Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ça?
D'abord, je dois souligner que les cadres sont différents.
Oui.
En tout cas, pour moi, je sépare les deux. En médiumnité, je reçois des gens que je reconnais absolument pas, et je parle d'un défunt que je reconnais tout autant pas.
Oui, c'est ça.
Inconnu.
Non plus,
on va dire ça comme ça. Et je leur donne des informations sur ce défunt pour qu'ils puissent le reconnaître. Et puis, c'est la communication que les gens viennent rechercher dans la médiumnité. Évidemment, cette communication peut s'avérer thérapeutique, comme ça a été mon cas avec mes parents, et comme je le vois souvent dans ma consultation. C'est un effet secondaire.
Et oui.
Les gens, ce qu'ils recherchent, c'est cette communication. Et cette communication, elle peut avoir des effets thérapeutiques, elle peut aussi faire qu'ils ont moins peur de la mort. C'est aussi un des effets secondaires.
Ah, mais vous expliquez aussi que parfois, alors que c'est pas forcément ce qui est recherché, je vais le dire comme ça, excusez-moi pour le terme, mais que la casquette de médium peut parfois, sans que ce soit prévu, s'inscrire, passer dans le cadre thérapeutique avec vos patients, et inversement, que tout votre savoir de psychologue peut aussi vous aider dans une séance de médiumité.
Oui, très juste. Déjà, dans la médiumnité, savoir relationner avec les gens, savoir les recevoir, savoir donner les informations d'une certaine manière pour que ce soit entendu. C'est vrai qu'en tant que psychologue, psychothérapeute, c'est bien sûr, ça m'aide.
Mais oui.
Ça veut pas dire qu'il faut évidemment être psychologue, psychothérapeute pour être médium, hein. Je suis pas en train de dire ça. Mais évidemment, ça aide. Donc, ça, cette, comment dire, cette sensibilité aussi que j'ai, aux pathologies, à l'enfance, au parcours des gens, ben, ça va évidemment colorer mes séances de médiumnité. Quand on est médium, ce qu'on sait, c'est que l'au-delà va utiliser ben, nos compétences. Et certainement, mes séances de médiumnité, ben, elles intègrent ça. Maintenant, dans la psychothérapie, ce qui se passe, c'est que j'utilise beaucoup des techniques qui se basent sur les états de conscience modifiés, comme l'hypnose,
oui.
Comme des techniques de traumatologie, comme les EMDR.
Mm-hmm.
Et là, en fait, je vais encourager mes patients à se mettre dans un état de conscience modifié,
oui.
Pour avoir plus facilement accès à leurs ressources.
Oui.
Et ce que j'ai remarqué dans mes consultations, c'est que quand je fais ça, ben souvent, il y a des défunts qui arrivent.
Qui s'invitent.
Oui, et tout oui. À fait. Quand je demande à mes patients, ben, qu'est-ce que vous aurez besoin d'avoir à vos côtés pour dépasser, par exemple, votre peur de l'avion?
Oui.
Ben, souvent, c'est un défunt qui arrive.
Mmh.
Et les gens disent, ben, ma tante, ben, en l'occurrence, là, dans mon livre, je donne cet exemple-là.
Oui.
Ma tante, ben, parce que ma tante, elle était quelqu'un qui était fort, qui m'encourageait. Et les gens ressentent, voient cette tante à leur côté.
Mmh.
Et il y a quelque chose qui se passe. Donc, en tant que psychothérapeute, je peux percevoir peut-être encore plus, parce que j'ai aussi un côté évidemment médiumnique, j'ai une casquette de médium, à quel point les défunts peuvent s'avérer être une ressource. Donc quand les gens mentionnent un défunt, bien évidemment je l'accueille à bras ouverts et je l'intègre dans la thérapie, dans la démarche de ce qu'on est en train de faire.
Et oui, j'imagine qu'il peut y avoir deux cas de figure. On en parlera tout à l'heure du coup sur la formation à la communication induite après la mort, mais j'imagine qu'il peut y avoir deux cas de figure. Je le vois aussi un petit peu au cabinet par les séances de MDR notamment. J'imagine qu'il y a la ressource que la personne mobilise en imaginant que si ma tante était à mes côtés, ça serait une véritable ressource. Et finalement, un autre cas de figure où là c'est réellement un défunt, c'est-à-dire que c'est réellement la tante qui vient en termes de ressources dans la séance. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Alors moi en tant que médium, si je mets ma casquette de médium, je dirais que c'est toujours le défunt qui vient.
Et oui.
Maintenant, certains patients le ressentent vraiment. C'est-à-dire que certains patients vont me dire... Ah, j'avais vraiment l'impression qu'elle était à côté, j'entendais sa voix. Les gens disent ça aussi.
D'accord.
En tant que psychothérapeute, je vais vraiment ouvrir et je vais pas définir l'expérience pour le patient.
Et
parce
oui.
Que ça, c'est ma casquette. Maintenant, bah, évidemment, en tant que médium, je ressens aussi la présence de du défunt. Quand le défunt arrive, en fait, comme j'ai aussi cette capacité de le percevoir, ben ça me permet de mieux accompagner le patient dans cette communication qui est en train de s'établir.
Oui, complètement, exactement. Et c'est ça que je trouve finalement passionnant, c'est que dans tous les cas, peu importe ce qui s'y passe, on accueille hein, ce que vit le patient, on est là, nous, voilà, dans notre position aussi de psychologue pour les accompagner. C'est vrai, hein, on n'a pas d'avis à avoir, on n'a pas à orienter les séances, on accueille, mais c'est vrai que votre casquette de médium doit donner un vrai plus.
En psychothérapie, moi, ce qui va m'intéresser, c'est le côté thérapeutique.
Bien sûr.
Je dirais que je m'en fiche un peu comment ça se passe, qu'est-ce qui arrive. Ça va être le résultat qui compte. Que les gens se disent que c'était une vraie communication ou pas.
Oui.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que ça va créer un changement.
Et oui, peu importe la ressource qui est mobilisée, un défunt ou un tout autre sujet, l'important, c'est que le patient avance. Par
oui.
Exemple, là, si vous parlez d'une phobie de l'avion, vous parlez de résultats, c'est que si le patient avance et progresse face à sa phobie.
Oui, qu'il puisse reprendre l'avion.
Exactement, très concrètement.
Tout à fait.
C'est une question que souvent les gens se posent. Comment vous savez qu'un défunt, maintenant vous êtes formé depuis longtemps, mais comment vous savez qu'un défunt est là? Comment vous savez qu'il entre en communication? À quoi vous le percevez? À quoi vous le savez?
Alors, la médiumnité, c'est un peu comme les sens extérieurs, hein, les cinq sens, mais c'est intérieur. C'est-à-dire qu'on va pouvoir ressentir un défunt. Je peux pas vraiment vous expliquer comment on le ressent, mais on peut sentir, ben, qu'une personne est là, c'est une personne grande, une personne petite, une énergie masculine, féminine, donc on peut ressentir les choses. On peut aussi voir de l'intérieur, un peu comme si on avait un œil intérieur, des images qui viennent. On peut aussi entendre. C'est pas tout à fait comme si on s'entend là, on se parle, mais c'est comme une voix intérieure.
Hein, c'est une perception différente, bien sûr.
Tout à fait. Oui. Et puis, ben, on peut aussi savoir un peu. On appelle ça le clair savoir. On sait.
On sait.
On sait que c'est une grand-mère, par exemple, qui est là. Et puis, ben, le médium, évidemment, il doit donner des informations précises pour prouver, comme je vous l'ai déjà dit, hein, je peux que le répéter, que c'est une personne et puis que cette personne soit reconnue.
Oui.
Donc le simple fait d'avoir des informations sur quelqu'un, ben, nous prouve qu'on a quelqu'un avec soi.
Et oui. Et justement, vous le précisez bien et vous incitez dans votre livre en disant que pour peut-être différencier un vrai médium professionnel d'un médium peut-être qui voilà, vous dites que c'est très important que au départ de ne pas donner d'informations quand on a ce type de consultation et de laisser le médium bien donner les détails de la personne pour être sûr que la connexion, la communication est bien en train de s'établir.
Exactement. En tout cas, c'est comme ça que je travaille. Mmh. Moi, je travaille à l'aveugle. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient me voir, je veux rien savoir sur la personne ou rien savoir sur ses défunts. D'autres médiums peuvent travailler autrement, certains sur photo. Alors évidemment, ça vous donne déjà une idée. Hein. Même si c'est une photo, le médium doit vous donner des informations qui vont au-delà de la photo sur le défunt avant d'établir la communication.
Et oui. Et là, on sait qu'on est dans un cadre qui est tout à fait correct, en tout cas.
Tout à fait.
Je vous l'ai expliqué, moi j'ai lancé le podcast parce que j'avais un vrai souhait de partage, de transmission et d'échange aussi avec d'autres professionnels. Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être en quelques mots qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire votre livre ?
Si j'ai écrit mon livre « Soigner les vivants et parler aux morts », c'était dans un but de partage. Donc déjà je voulais témoigner en tant que psychologue, psychothérapeute et médium de mes deux métiers. Donc je voulais vraiment partager ça. Mais ça a été aussi pour anticiper justement ces questions, hein, quand je me présentais comme psychologue, psychothérapeute et médium, les gens étaient vraiment toujours étonnés, ou voire il y avait des fois une petite surprise ou des fois un peu réprobation que je sentais, et j'ai vraiment voulu présenter la médiumnité avec des mots simples, expliquer ce que c'était, pour que les gens comprennent,
eh oui.
Pour un peu sortir de ces stéréotypes. Je vous ai dit que moi, je me suis formée en médiumnité hein, pour devenir médium professionnelle. Mais en fait, la médiumnité, elle m'habitait depuis longtemps.
Et oui.
Et j'avais pas compris. J'avais pas compris justement parce que moi-même, j'avais des stéréotypes sur les médiums. Je considérais que c'était des gens bizarres. Je les voyais et j'imaginais qu'ils avaient une boule de cristal, qu'ils se transformaient complètement quand ils donnaient des messages. Donc pour moi, c'était pas moi. Alors que moi, la médiumnité, elle m'habite depuis longtemps.
Et vous le dites dans votre livre. Vous avez envie de nous dire quelques mots
oui,
sur ça?
Oui, tout à fait. Alors, ce que je dis pas dans mon livre, c'est que la première fois que ça m'est arrivé, en fait, j'avais 8 ans.
D'accord.
Et quand j'ai eu 8 ans, j'ai perdu mon grand-père paternel. Mon grand-père paternel, c'était vraiment mon soleil. Je suis toujours un peu émotionnée quand je parle de lui parce que c'était vraiment une personne qui faisait tout pour me faire plaisir. Il venait me chercher, il m'emmenait toute la journée et j'adorais les animaux, il me montrait des animaux de ferme. J'étais comme une petite princesse avec mon grand-père. Et quand il a disparu, évidemment, ben j'ai eu le cœur brisé. Je me souviens que j'ai vu son corps. Hein. Il était exposé chez lui, donc j'avais vu son corps. Je m'en souviens encore. Et puis par la suite, j'ai eu moins de tristesse. Et pourquoi j'ai eu moins de tristesse? C'est parce que mon grand-père est vraiment venu me voir. Il venait dans ma chambre, il venait, je le voyais vraiment à l'époque, je voyais presque comme je vous vois. Et il venait me parler, il venait me soutenir, il venait être là pour moi. Évidemment, ça m'a beaucoup aidée, parce que c'était pas toujours facile.
Oui.
Mais il y avait quelque chose de très naturel. À 8 ans, j'ai pas du tout compris que c'était de la communication avec un défunt. Je savais que mon grand-père était décédé, et puis en même temps, je lui parlais, mais j'arrivais pas à expliquer, faire le lien entre les deux. Ce que je sais, c'est que j'en ai pas parlé autour de moi, donc il y avait quand même quelque chose en moi qui, visiblement, considérait que c'était pas partageable.
Et oui.
C'est beaucoup plus tard que j'ai compris que c'était de la médiumnité. Par la suite, j'ai donné des messages quand j'étais plus âgée, des adultes, à des gens. Même là, j'ai pas compris que c'était de la médiumnité. Vous voyez, ça peut paraître très étonnant aujourd'hui, mais j'ai dû me former en médiumnité pour comprendre que ce que je faisais avant était de la médiumnité. Et moi, d'accord, ce livre, je l'ai aussi écrit dans ce but-là, parce que je suis certaine que je suis pas la seule, hein, voyez, à qui c'est arrivé. Et c'était important pour moi de dire, ben voilà, la médiumnité, c'est ça. C'est plus naturel qu'on puisse l'imaginer. Quand je dois expliquer la médiumnité, je prends souvent l'analogie de la natation. Mais parce que la natation, n'importe qui peut apprendre à nager. On est d'accord.
Oui.
Mais il faut un attrait pour l'eau. Il faut ne pas en avoir peur. Sinon, on commence pas à nager. Et puis, si on veut être un bon nageur, ben, il va en falloir faire des bassins. Mmh. Apprendre la technique, nager avec l'eau. Et c'est là qu'on devient un bon nageur. Donc, tout le monde peut nager, mais pas tout le monde va devenir un bon nageur. Et pour devenir un bon nageur, souvent, il faut avoir cet intérêt.
Et justement, dans votre livre, vous différenciez bien ce qui peut être les perceptions subtiles. Je vais dire comme ça, vous le direz mieux que moi. Vous savez, on en a parlé, et puis les gens le savent aussi. Moi, je fais des canalisations, mais je ne suis absolument pas médium. Et vous le dites bien dans votre livre, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent percevoir des choses, mais c'est pas pour autant qu'ils sont médiums. Et moi, j'ai trouvé ça très très chouette que vous puissiez le différencier. Est-ce que vous avez envie juste de nous éclairer dessus?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que tout le monde a des dons médiumniques, hein, tout le monde. D'ailleurs, on sait que les gens, quand ils perdent un proche, un défunt, ben maintenant les chiffres, hein, ils ont énormément évolué parce que les gens parlent plus, c'est une personne sur deux.
Et oui.
Qui dit avoir eu un contact, hein, que ce soit au niveau qu'elle est perçue, simplement une impression que la personne est là, qu'elle est vue, qu'elle est entendue, qu'elle ait ressenti peut-être son odeur, ou voyez, quelque chose de cet ordre-là. Et les gens qui rapportent ça, c'est une personne sur deux. Donc c'est quand même énorme, hein.
C'est vrai, les nouvelles recherches, ouais, donnent ce chiffre-là.
Exactement. Donc c'est quelque chose de complètement naturel. Maintenant, la médiumnité, je dirais que c'est un continuum. Ce que tout le monde a, et ce qu'on a beaucoup, c'est la sensibilité et l'intuition. Et ça, pour moi, ça fait aussi partie de la médiumnité.
Mmh.
D'accord? Donc, beaucoup de gens ont ça, et beaucoup de gens vont utiliser ça dans leur métier, dans leur relation avec les autres. Donc, ça, c'est complètement naturel. Il y a des gens qui vont aller un petit peu plus loin, qui vont l'utiliser, par exemple, dans les arts, dans la peinture, dans l'écriture. Et c'est des gens qui vont dire, ben, j'ai l'impression que je suis inspirée, qui vont essayer de développer ça. On parle d'écriture automatique. Et donc, oui, ça, c'est aussi une partie de la médiumnité. Une autre partie de la médiumnité, c'est la guérison. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont vous envoyer de la guérison, vous faire de la guérison énergétique. On, oui, connaît tout ça.
Oui, oui.
Donc, c'est aussi une partie de la médiumnité.
Oui, les magnétiseurs, les guérisseurs.
Tout à
voilà,
fait.
Il y a plein,
exactement,
de noms, finalement.
Oui. Et puis, ben, il y a des gens qui parle avec les défunts, qui font ces contacts, et on appelle ça la médiumnité de contact, et c'est, bon, évidemment, la partie qu'on connaît. Il y a aussi les médiums qui vont utiliser, comment dire, leur sensibilité pour pouvoir, ben, voir le passé, le présent, l'avenir.
Mm-hmm.
Et eux, ils vont plus se spécialiser dans la voyance.
Oui.
D'accord. Mm-hmm. Donc, j'en parle dans mon livre, et je dis, ben, c'est un peu toutes ces choses différentes dont on parle.
Oui.
Maintenant, il y a plein de traditions, hein, dont la guérison, évidemment, on parle de, il y a les chamans, il y a les guérisseurs traditionnels dans certains pays. Pour moi, ça fait partie de ça. Maintenant, après, les gens se mettent dans une tradition particulière et puis vont appeler ça autrement. Pour moi, ça me va aussi.
Eh oui, exactement, c'est ça. Mais on s'inscrit dans ce qui nous parle et dans, voilà, oui, ce avec quoi on est aligné.
Exactement. Et pour moi, ça a été aussi ça, hein, de partager, en fait, ce que j'en avais compris. Je me suis éduquée dans la médiumnité. Donc, pour moi, c'était important de le partager. Et puis, ce que j'avais marre d'entendre, c'est que c'est pas scientifique. Que la médiumnité, c'est quelque chose qui est complètement de l'ordre de la croyance. Et j'ai voulu justement mentionner ces études qui sont trouvables, hein, qu'on trouve vraiment les universités qui étudient la médiumnité, qui étudient la parapsychologie, hein, et qui montrent vraiment que c'est pas le fruit du hasard.
Il y a justement de plus en plus de recherches qui se font aussi maintenant dans le domaine, voilà, de la psychologie, de la psychiatrie aussi. C'est vrai que c'est en train de se développer progressivement. Et justement, ça m'amène à vous poser un peu cette question. Est-ce que vous avez un avis sur comment peut-être démocratiser un peu plus cette ouverture à l'invisible, cette connexion à l'invisible dans le métier de psychologue? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Est-ce que vous pensez que ça serait intéressant de le démocratiser? Et si oui, peut-être comment?
Déjà, je pense que les gens qui ont une certaine sensibilité, ben forcément, à un moment, ils vont vouloir développer cette sensibilité. Et dans ce cadre-là, la médiumnité peut aider. C'est-à-dire les exercices de médiumnité, d'essayer de se connecter plus finement à son intuition, plus finement un petit peu à l'autre, ce qu'on perçoit un petit peu subtilement de l'autre, et puis peut-être ce qu'on perçoit un petit peu de quelque chose de plus grand qui nous accompagne, soi et l'autre, on va dire ça comme ça. Donc la médiumnité peut aider les psychologues, les psychothérapeutes qui ont envie de développer leur sensibilité. D'ailleurs, c'est pour ça que je donne aussi des ateliers sur le sujet, hein. Je les donne avec une amie médium, hein, qui elle s'occupe vraiment des exercices de médiumnité sur sa casquette pure de médium. Et moi, j'alimente avec des exercices de psychothérapie, hein, qui sont pour mieux s'ancrer, pour mieux se connecter à soi, se protéger aussi, et pas de protéger, mais je dirais que de soigner cette relation à l'autre. Voilà, c'est pas se protéger, mais c'est soigner cette relation à l'autre. Et puis, ben, comment est-ce qu'on fait quand on a cette sensibilité un plus grand, comment est-ce qu'on peut rester ancré, droit dans ses bottes? En fait, c'est ça l'idée. Quand j'ai écrit mon livre, j'avais une peur. C'est celle d'être critiquée par mes pairs. Je me suis dit, j'écris ce livre, je vais être mise au pilori. C'est vraiment comme ça.
Je suis la même que vous en sortant le podcast, donc je vous comprends parfaitement.
Et puis, vous serez peut-être pas si étonnée, Kelly, de savoir que c'est un peu le contraire qui s'est passé. Des gens m'ont écrit en me disant qu'ils avaient trouvé ça intéressant. Contente, hein. Et puis aussi, ils ont osé partager que dans leur consultation, ils avaient déjà certains ressentis, ils avaient aussi, eux, observé ce que moi j'observais. Et ils étaient contents parce que ça mettait des mots sur ce qu'ils percevaient. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Ça a été non seulement pour le grand public, mais aussi pour les professionnels. Et démocratiser pour moi, c'est en parler. Donc votre émission, mon livre, mes ateliers, ce que vous faites vous aussi sur Paris, évidemment, ça aide les gens à mieux comprendre. Plus des gens qui sont crédibles, qui présentent les choses de manière entendable. J'ai écouté vos podcasts, j'aime bien, parce que vous présentez des choses qui sont que beaucoup de gens peuvent comprendre. Plus on présente les choses comme ça, plus les gens peuvent entendre ou bien se poser la question ou bien dire que finalement ça les intéresse pas, on s'en fiche. Mais l'idée, c'est d'en parler. Vous voyez, pas comme présentons une vérité, mais présentons comme expliquer quelque chose. Et moi, c'est ce que je voulais faire dans mon livre.
Et je partage pleinement, c'est exactement ce que je dis dans le premier épisode du podcast, c'est que j'ai aucune vérité, je partage ce qui me traverse, et puis voilà, ça permet juste d'informer, peut-être de faire des déclics, de déclencher des réflexions. J'ai vécu la même chose que vous avec le lancement du podcast, mais pas que. Quand j'ai commencé à faire mes formations, un peu dans l'ombre, avant même d'amener cette connexion avec l'invisible dans mon cadre professionnel, j'ai commencé à en parler avec des amis ou des personnes de mon entourage qui étaient psychologues, parce que j'étais comme vous, j'avais peur. Je me dis, mais oulala, je vais aller un petit peu tester le regard de mes confrères et de mes consoeurs pour savoir déjà comment ils réagissent un petit peu comme ça en off. Et j'ai eu la même surprise que vous. La majorité, déjà, n'était pas choquée, n'était pas en rejet de ça. Mais à l'inverse, la majorité m'ont dit, tu sais, moi aussi. Moi aussi, je crois que je perçois des choses. Je crois que j'ai une intuition qui n'est pas que de l'intuition. Et c'est génial de pouvoir en parler avec toi parce que je me sens un petit peu seule avec ça. Et c'est là que je me suis dit, ok, le podcast, ça fait trop longtemps qu'il est dans les tuyaux, il faut vraiment que je le lance parce que il faut que je dépasse cette peur. Et donc j'ai fait comme vous, je l'ai lancé le podcast, j'ai lancé mes accompagnements et j'ai beaucoup de témoignages, de messages de personnes qui viennent me dire, ça fait du bien, une personne qui en parle, ça fait du bien, je me sens un peu moins seule. Et c'est ce que j'ai ressenti, ce sentiment d'appartenance, je le disais en introduction, ce sentiment d'appartenance que j'ai vraiment ressenti en lisant votre livre. Et c'est une vraie, je pense, difficulté, un vrai challenge pour nous de garder le cadre thérapeutique qu'on a avec nos patients tout en ayant cette connexion avec l'invisible, de trouver toujours le bon juste milieu, le bon positionnement. Quand on disait qu'on peut percevoir, avoir des intuitions sur peut-être ce que notre patient peut soit ressentir, soit des choses qu'il a pu peut-être vivre, on peut parfois avoir des informations complémentaires. Et là est la question de se dire comment nous, là, on accompagne notre patient avec ça. Notre rôle est vraiment de rester à notre place malgré ces informations, parce que c'est notre patient qui doit faire le process. Vous l'avez très bien dit tout à l'heure, et j'en parle parce que je trouve que que c'est précieux ce que vous m'avez transmis aussi. C'est à nos patients, notre patient, de faire le processus dans son cadre thérapeutique, face à sa problématique. Finalement, le plus important, c'est de laisser le temps au patient de rentrer dans le processus, même s'il l'a compris. Peut-être le chemin qu'il pouvait prendre, le psychique, et pas que, mais le psychique du patient peut avoir besoin de temps. Il y a toujours des bénéfices aussi à ne pas investir un sujet, ne pas l'investir tout de suite, ou alors de l'investir à son rythme. Et est-ce que vous pouvez rebondir sur ça, parce que j'ai vraiment apprécié notre échange en off tout à l'heure.
Moi, il y a certaines personnes qui viennent me consulter comme psychothérapeute parce qu'ils savent que je suis médium aussi. Soit qu'ils ont fait une séance avec moi, soit qu'ils ont entendu parler de ça. Et puis, pour certains, ils viennent et ils me disent, ben, voyez, avec vous, ça va aller plus vite, hein. Vous allez me dire ce qui se passe en moi, et puis, on va faire une thérapie express. Mm-hmm. Alors, j'adorerais que ce soit le cas. Ce qui se passe, en fait, c'est que oui, ben, évidemment, je peux leur retourner certaines choses, mes ressentis, toujours comme des questions, bien évidemment, comme une interrogation, hein, c'est pas une prise de pouvoir. Mais en même temps, le processus psychothérapeutique, il a son propre temps. Et ça, c'est important de le respecter. Et aussi, de savoir que, ben, quand on est patient, on a tout à fait le droit aussi d'aller jusqu'où on veut bien aller. Oui. Hein? Et si on veut soigner quelque chose, on n'a peut-être pas envie de tout soigner, ou on est bien un moment avec ça, puis peut-être que ça suffira. Oui. Et vraiment, notre rôle, c'est ça. Sinon, ben, vous allez voir un voyant qui va vous dire, ben voilà, vous allez faire ça, vous allez... Et c'est pas notre rôle. Notre rôle, il est vraiment d'accompagner, d'utiliser notre sensibilité pour être à côté, pour accompagner, pour donner des fois des retours, pour que la personne peut-être un peu se sentir mieux compris. Mais c'est ça. Et ça doit être ça.
Eh oui. Et le changement, acter le changement ou acter un mouvement n'est pas obligatoire. Et il peut des fois avoir une partie de nous qui va fantasmer ce changement et une autre partie de nous qui sera pas encore prêt. Et enfin voilà, je trouve que c'est un message important à passer aussi aux gens qui nous écoutent.
Tout à fait. Oui.
Merci.
Merci Kelly.
J'évoque dans le deuxième épisode du podcast que du coup vous avez gentiment écouté, la manière dont il y a un peu deux courants en lien avec la notion de conscience. Il y a plutôt le courant matérialiste qui part du principe qu'il y a principalement ou exclusivement que la matière et que la conscience est créé par notre cerveau. Et puis, il y a le courant post-matérialiste qui, à l'inverse, va plutôt énoncer le fait que notre conscience passe par notre cerveau, mais n'est pas créée par lui. C'est comme si c'était plutôt un récepteur de conscience. Moi, je l'ai dit très clairement, je tends beaucoup plus depuis quelques temps sur ce deuxième courant post-matérialiste. Je l'ai également lu dans votre livre, et du coup, j'avais envie de vous donner un petit peu la parole sur ce sujet-là.
Je crois qu'aujourd'hui, l'idée que la conscience est, que c'est le fruit de notre cerveau uniquement, ça tient plus du tout. On le sait, et ce qui corrobore ça beaucoup, hein, c'est les expériences de mort imminente que les gens rapportent, hein, des gens qui ont été vraiment aux morts cliniques et qui reviennent, hein, soit qu'ils étaient dans un service de soins intensifs, on les a ressuscités d'une certaine manière, et qui viennent et qui racontent qu'ils ont vu des choses que les gens peuvent valider autour d'eux, hein, qui évidemment ils ne pouvaient pas voir parce qu'ils avaient les yeux fermés, ils étaient sur un lit ou ils étaient coincés dans une voiture, ou ils peuvent vraiment donner des informations, et on voit bien que la conscience n'est pas uniquement dans le cerveau. Et ça, si on lit les études qui sont vraiment mais pléthores sur le sujet, à mon avis, hein, on peut pas tellement aller à l'encontre de ça. Oui. Maintenant, on a envie, voyez, il faut encore vouloir lire les études et s'intéresser sur le sujet, évidemment. Donc moi, je vais avoir cette position-là, qui est évidemment la même que vous. Une analogie que beaucoup de gens utilisent, hein, c'est que notre cerveau serait un peu comme un poste de radio.
Exactement.
Et puis que si on commence à confondre le poste de radio avec les ondes, on sait bien que la télévision avec ce qu'il y a dans le poste, c'est évident que ça, on fait un amalgame. Donc c'est un peu pareil pour ça. Évidemment, la communication avec les défunts, elle prouve ça aussi.
Oui.
Il y a quelque chose de nous qui continue après la mort, après la mort du corps physique. Et vous savez, Kelly, moi j'aime bien que ça reste un mystère. Parce que quand j'arriverai dans l'au-delà, j'ai envie d'être étonnée encore.
Et oui, d'être surprise positivement.
Tout à fait.
Et de découvrir.
De découvrir, exactement.
Et oui. Je rebondis par rapport à ce que vous venez de dire sur justement la formation que je fais ce week-end, qui du coup s'appelle, alors moi je le dis SIAM, vous vous dites IADC, voilà, les deux peuvent être tout à fait utilisés. SIAM du coup c'est la communication induite après la mort, c'est une formation du coup qui permet de travailler le processus de deuil d'une manière un petit peu différente, c'est grâce à vous et à grâce à la lecture de votre livre que je vais me former et j'en suis vraiment très très heureuse. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur cette formation, sur cette thérapie et aussi comment vous, vous l'utilisez au sein de votre cabinet ?
Tout à fait. La SIAM, ça s'appelle donc la communication induite après la mort. C'est une technique qu'a découvert Alan Botkin aux États-Unis dans les années 90 ou 90, pardon.
Oui, vous inquiétez pas.
Et il a découvert ça, en fait, parce qu'Alan Botkin était psychothérapeute. Il travaillait beaucoup avec les vétérans du Vietnam. Il travaillait déjà d'ailleurs dans un centre qui recevait que des vétérans du Vietnam. Et il, évidemment, il travaillait les traumas avec cette population. Hein. Donc, il utilisait l'EMDR, qui est une technique de traumatologie, hein, pour les aider à réduire la souffrance de leur trauma.
Eh oui.
Et Alan Botkin, alors qu'il travaillait avec un vétéran du Vietnam, qui s'appelait Sam, il le cite dans son livre. Et Sam, en fait, ce qui s'était passé, c'est que il avait, durant son temps au Vietnam, pris sous son aile une jeune Vietnamienne. Cette jeune Vietnamienne avait été tuée, il avait vu son cadavre déchiqueté sous ses yeux. Et ça hantait Sam depuis une vingtaine d'années.
D'accord.
Et quand Alan Botkin a travailler avec Sam, à un certain moment, quand il a remis sur le trauma, parce que c'est ça, en fait, avec l'EMDR, vous retournez sur le trauma pour le désensibiliser.
Exactement.
Sam a dit à un certain moment qu'il voyait cette jeune Vietnamienne sous une forme adulte, qui le remerciait pour tout ce qu'il avait fait pour elle, et que pour lui, et quand il a retourné ça à Botkin, il a dit, mais pour moi, elle était vraiment là. Et puis surtout, il disait que ça était quelque chose qui soulignait le côté très thérapeutique, que vraiment, d'accord, ça avait changé son idée, que maintenant il se sentait mieux, que maintenant il pouvait vivre avec ça, et etc.
Ça a dû changer son idée de la mort aussi, j'imagine.
J'imagine. En tout cas, il y a eu quelque chose de très thérapeutique.
D'accord.
Et Botkin, quand il a eu cette expérience-là avec ce patient, il a développé un protocole justement pour reproduire ça. C'est-à-dire que quand quelqu'un travaillait sur un trauma qui impliquait une personne décédée, il a travaillé pour faciliter en fait cette communication. La SIAM, c'est ça. C'est-à-dire que le thérapeute utilise les MDR, et puis en même temps, il essaye d'induire ou de faciliter cette communication avec le défunt. C'est pas la médiumnité, c'est-à-dire que c'est pas le thérapeute qui va donner des informations sur le défunt, mais c'est le patient qui, lui, va faire cette connexion. Alors, imaginer, ou qui pense qu'elle est imaginée ou pas, ça, on s'en fiche.
Exactement.
Oui. Et dans le but, en fait, de dépasser la souffrance du deuil. Donc, la SIAM est une thérapie qui est vraiment ciblée sur le deuil, C'est pas une thérapie qui est faite pour autre chose.
Eh oui. Donc, et vous l'utilisez du coup pour vos patients
endeuillés, tout à fait. Donc c'est quelque chose que j'utilise assez systématiquement pour mes patients endeuillés. Il y a des patients qui viennent me voir uniquement pour ça parce qu'ils ont ou lu le livre de Botkin, en tout cas entendu parler de la SIAM,
oui.
Et d'autres qui malheureusement ont un deuil dans leur histoire ou un deuil quand je les suis. Et du coup assez naturellement, je vais utiliser cette technique pour les aider. La SIAM amène une autre dimension. Maintenant, Botkin, lui, ne parle pas de médiumnité quand il parle de SIAM.
Oui.
Et c'est important, je crois, d'une certaine manière, parce que c'est vraiment au patient de lui mettre un mot sur son expérience. Est-ce que lui pense que c'était une vraie communication ou pas? Et vraiment, en tant que psychologue, psychothérapeute, ça va vous être d'une certaine manière égal. L'essentiel, c'est le résultat.
Complètement.
D'accord. Maintenant, pour moi, évidemment, en tant que médium, pour moi, il se produit de la médiumnité.
D'accord.
Et je vais vous dire pourquoi. Parce que ce que j'ai remarqué dans mes séances SIAM, c'est que des fois, les gens sont surpris. C'est-à-dire que quand la communication s'établit, il y a des choses qui leur viennent qu'ils auraient pas imaginé ou pas pensé ça comme ça. Donc, c'est pas leur mental qui crée ça. Évidemment, moi, je le ressens en même temps. Donc,
voilà.
Il y a aussi ça.
Complètement. Merci pour ce partage. Tout à l'heure, vous nous avez parlé donc des démonstrations publiques que vous faisiez, mais aussi des ateliers. Est-ce que vous avez envie d'en dire un peu plus, peut-être, sur les ateliers que vous proposez ou pas ?
Bien sûr. Alors, les ateliers que je propose, c'est beaucoup dans l'idée que les gens puissent travailler leur sensibilité. Et ce qui m'intéresse de partager, c'est comment faire au mieux avec sa sensibilité. Évidemment que ça peut être un atout. Ça peut être un atout dans la connexion à son intuition, la connexion à l'autre, la connexion à quelque chose de plus subtil. Oui. Donc, mes ateliers portent beaucoup là-dessus. Et ils portent aussi à comment prendre soin de cette sensibilité. Parce que j'ai des fois remarqué dans les écoles de médiumnité, c'est que les gens, ils sont extrêmement sensibles, mais en fait, des fois, ça leur fait souffrir. Des fois, ils savent pas comment dire. Des fois, ça leur amène un petit peu plus de difficultés dans leur vie. On va dire ça comme ça. Hein. Des fois, la sensibilité, ça peut être aussi, une sensibilité au monde et ça devient plus compliqué. Donc, moi, j'ai eu envie de dire, mais non, ça peut être un atout. Et puis, la psychologie, il y a certains outils qui peuvent vraiment aider, à gérer cette sensibilité. Et utiliser cette sensibilité pour mieux se connecter, ça peut aussi donner un sens à cette sensibilité. C'est pour ça que ces ateliers, je les fais avec une collègue médium, et j'aime bien, on travaille bien ensemble, et elle amène vraiment les exercices de médiumnité, et moi j'amène le côté psy, mais aussi le côté psy qui utilise certains outils qui font pas qu'appel à la psychothérapie, mais aussi à cette sensibilité et à ce monde qui nous entoure.
Oui.
Parce que finalement, la médiumnité, qu'est-ce que ça implique ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour moi, ça implique, il faut pas attendre d'être dans l'au-delà pour faire des choses importantes, pour dire aux autres qu'on les aime.
Oui.
Si vous êtes dans l'au-delà, vous devrez trouver un médium qui sait traduire ce que vous voulez, bien traduire, et puis en plus que votre proche ait l'idée d'aller voir un médium. Donc vous imaginez, il est bien possible que dans l'au-delà, vous n'arrivez pas à passer vos messages.
Oui.
Donc, vraiment, moi j'encourage les gens à dire, mais si vous avez des choses à dire à vos proches, si vous avez de l'amour à partager, partagez-le.
Eh oui.
D'accord ? Donc pour moi, la médiumnité, ça veut dire ça. En plus, il me semble que ce monde du subtil, ce que soulignent les défunts souvent qui viennent communiquer à leurs proches, ils soulignent les actes de gentillesse, ils soulignent les paroles, les actes de gentillesse, tout ce qui a été.
Oui.
Donc pour moi, ça montre à quel point chaque acte de gentillesse compte.
Eh oui.
Et puis de s'en souvenir simplement, et pas de se museler, ou si on a envie d'être gentil, oser être, c'est pas de la vulnérabilité, c'est pas de simplement oser être soi. Et aussi, la médiumnité pour moi, c'était un chemin de développement. La psychothérapie, évidemment, l'est, on sait que quand on est psychothérapeute, on doit travailler sur soi, et Dieu merci.
Mais oui.
Heureusement.
Et je trouve qu'effectivement, la connexion avec l'invisible au subtil nous amène à travailler encore plus sur nous.
Exactement. Et pour moi, c'est un chemin de développement.
Je suis d'accord.
Et j'ai l'impression que c'est un peu ça qu'on doit faire. Se développer, étendre ses ailes, tout en prenant soin de l'autre, en se sentant connecté au monde. On parle beaucoup aussi d'éco-responsabilité, nos jours, de tout ça. Et pour moi, ça s'inscrit dans tout ça. On est relié. On n'est pas seul, c'est pas nous seuls au monde, c'est pas après soi le déluge. Si on imagine qu'on va continuer dans l'au-delà, on peut plus dire que on s'en fiche de ce qui va arriver aux autres ou à cette planète. Donc ça amène une autre responsabilité.
Et je trouve que vous l'avez très bien dit avec vos ateliers. Moi, je constate beaucoup de patients qui sont dans le rejet de leur sensibilité ou de leur hypersensibilité. C'est très souvent justement un frein à ce que vous venez de dire, qui est un frein à être soi-même, à s'exprimer, à passer ses messages, à être dans sa personnalité, à être aussi dans des activités qu'on a envie de faire. Et c'est vrai que cette sensibilité, cette hypersensibilité peut très rapidement devenir un frein. Et je trouve que notre rôle, c'est aussi, indépendamment là du coup de la connexion au subtil, c'est d'aider nos patients à s'accepter tels qu'ils sont, c'est les aider à travailler sur leurs blessures personnel, émotionnel, pour réussir à être même dans cette vie-là. Exactement. Je vous remercie du message que vous venez de passer parce que j'allais finalement pratiquement vous demander est-ce que vous avez un message, un peu un mantra, une philosophie de vie à partager et j'ai l'impression que vous venez de le faire finalement. Donc merci beaucoup.
Merci à vous, Kelly.
Oui, merci beaucoup Brigitte de m'avoir reçue. Je suis sûre que cet épisode va être hyper hyper riche pour les auditeurs et les auditrices. Merci beaucoup. Moi je vous dis à très bientôt. On se retrouve très vite pour des prochains épisodes solo mais aussi d'interviews et de méditation. En tout cas, prenez bien soin de vous.
Merci Kelly.
À bientôt.
À bientôt.